Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission Quartier Libre où je suis ravie d'accueillir deux invités aujourd'hui. Il s'agit de Daniel Berthet, artisan romancier comme il aime à se définir, et Monique Etienne, vice-présidente de l'association France-Palestine Solidarité 04. Bonjour.
Bonjour Odile.
Alors votre venue aujourd'hui c'est bien sûr pour parler de la sortie du dernier livre, enfin pour l'instant, de Daniel Berthet, Porteur de rêve, vous allez nous en parler. Et puis pourquoi ce lien avec France-Palestine Solidarité 04? Alors qui commence? Peut-être vous, Daniel Berthet, puisque ce n'est pas la première fois que vous vous associez à une association.
Voilà, merci Odile.
Oui, bien dans le micro, voilà, bien en face.
Et effectivement, lorsque je sors un livre, c'est le quatrième maintenant, j'ai l'habitude de m'associer avec une organisation pour essayer de faire un travail collaboratif. Le dernier livre, c'était L'anneau de Saint-Jérôme. J'étais associé avec le Secours Populaire. Et puis ce livre-là, qui porte sur les années douloureuses de la guerre d'Algérie, j'ai décidé de m'associer avec l'association France-Palestine, que je connais particulièrement puisque je suis aussi membre adhérent, pour des liens particuliers puisqu'on travaille sur le combat anticolonialiste. Voilà.
Merci. Eh bien, on va venir bien sûr plus en détail sur ce livre.
Ben, moi, je voudrais rajouter que ça me paraissait évident, vu le thème porteur de rêve, donc sur la guerre d'indépendance pour l'Algérie dans un conflit colonial, le lien était tout trouvé avec la Palestine, puisque malheureusement, en Palestine, c'est le dernier, on peut dire, conflit colonial qui est sur la planète, que la terre continue à être spoliée et détournée par la puissance occupante qu'est Israël, et que le peuple palestinien mène une guerre de résistance, donc, tout au moins une résistance qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui résistance populaire, mais qui est tout à fait centré sur le thème du dernier roman de Daniel. Donc le lien nous paraissait évident. Bon, en plus, Daniel, effectivement, il l'a rappelé, est une cheville ouvrière de la FPS, hein, puisqu'il y en est le trésorier, entre autres. Et donc, depuis le début de sa fondation, il est avec nous, militant de la FPS. Donc voilà pourquoi, tout naturellement, Daniel, quand il nous a fait cette proposition, nous l'avons accueilli avec joie.
Alors je dois ajouter que dans les motivations de l'écriture de ce livre, il y a effectivement mon adhésion à la FPS qui a fait que je me suis formé sur les problèmes de combat contre le colonialisme. Et effectivement, en écrivant ce livre, j'ai pensé immédiatement que ça convenait avec le combat des Palestiniens au niveau de leur libération.
Donc on va rappeler le synopsis de votre livre, Porteur de rêve.
Voilà, oui. Donc Porteur de rêve, je suis parti des personnages, mais cette fois-ci, j'ai voulu écrire un livre en prenant la place des personnages, ou plutôt en laissant la parole à mes principaux personnages. Donc le narrateur n'intervient pas, ce sont seulement les personnages qui vivent la guerre d'Algérie qui parlent en leur propre nom. Et je dois dire que c'est assez intéressant comme style d'écriture, c'est pas évident au départ, parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau des différents personnages, mais j'ai essayé d'équilibrer l'écriture pour que toutes les communautés interviennent dans le récit de la guerre d'Algérie. Et j'ai essayé d'être neutre. Et ce qui m'a surtout intéressé, c'est de parler de la souffrance des peuples, des différentes communautés par rapport à un conflit. Et de l'imbécilité de la guerre.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec des témoins directs de cette guerre d'Algérie?
Non,
est-ce que vous avez fait des recherches?
Oui, j'ai fait des recherches. Pendant l'écriture du livre, je n'ai pas eu besoin d'avoir des contacts, mais j'avais une connaissance assez particulière de la guerre d'Algérie, puisque ça m'avait marqué à l'époque où j'étais adolescent, puisque en 1960, j'avais une douzaine d'années. Et donc le conflit en lui-même m'a marqué, je pense qu'il a marqué toute la France aussi. Et puis, arrivé à l'âge de 21 ans, au lieu de faire le service militaire, j'ai fait la coopération. Et la coopération m'a emmené justement en Algérie, en 1970. Et là, je pensais rencontrer un peuple qui allait être agressif vis-à-vis des Français, vu ce qu'ils avaient vécu, parce que j'avais lu la guerre d'Algérie. J'avais lu ce qui avait été écrit sur la guerre d'Algérie, en particulier le bouquin de Yves Courrières, sur les 4 volumes sur la guerre d'Algérie. Et j'étais un peu inquiet en arrivant en Algérie. Or, j'ai trouvé un peuple très accueillant, et ça m'a extrêmement surpris, ça. C'était seulement 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie, même pas 8 ans. Donc là-dessus, je suis parti avec une connaissance très particulière de la guerre d'Algérie et une sympathie quand même pour le peuple algérien. Et j'ai retraduit ça, mais en essayant de faire ressortir la souffrance de toutes les communautés.
Monique Etienne, est-ce que vous voulez nous parler de ce qu'est Mahan, c'est ça ?
Ah ben, donc Daniel a décidé effectivement qu'il reverserait 5 euros, je crois, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors je précise, oui. 5 euros, c'est parce que le livre se vend 15 euros et la marge de distribution laissée au distributeur, c'est 5 euros, c'est un tiers. Et donc comme je vends directement le livre, je peux reverser cette marge de distribution à une association avec laquelle je travaille. C'est ce qui s'est passé pour les précédents livres. Et là, ce sera donc 5 euros qui sont redistribués à l'association France-Palestine Solidarité. Et cette, bien sûr, la seule condition, c'est qu'on achète directement le livre auprès de moi. Alors j'en profite pour dire que le bon de commande se trouve sur mon site personnel, qui est www.danielbertet.com.
Alors donc ces 5 euros en fait sont reversés pour le projet que nous allons mettre en place. Je rappelle donc qu'on travaille depuis des années pour des projets de développement avec la Palestine, qu'on a donc entre autres financé et aidé à la structuration de la filière d'huile d'olive en Palestine, d'une huile d'olive de qualité. Qu'on travaille d'ailleurs à vendre toujours cette huile d'olive par le biais du commerce équitable. Et le deuxième projet, c'était dans la vallée du Jourdain, dans la réfection et la réhabilitation de bassins d'irrigation pour des fermiers du village d'Aloja, qui est dans la vallée du Jourdain. Et comme nous allons régulièrement en mission en Palestine et que nous sommes allés donc souvent dans la vallée du Jourdain, nous nous sommes rendus compte qu'il était essentiel de continuer à travailler sur des projets de développement dans la vallée du Jourdain. Pourquoi ? Parce que la vallée du Jourdain est un aspect essentiel de la colonisation et aussi une des issues. Si on ne résout pas le problème de la vallée du Jourdain, on ne pourra pas résoudre le problème du conflit israélo-palestinien. Parce que la vallée du Jourdain est une zone extrêmement riche, mais complètement annexée à 95% par les colons israéliens. Et donc, avec détournement de l'eau, détournement des sources et une politique de nettoyage ethnique qui fait que les Bédouins sont chassés de leurs terres, n'ont pas le droit d'avoir leurs troupeaux parce que la majorité des terres de la vallée du Jourdain sont en zone C et les zones C sont sous contrôle total de l'armée israélienne et que les colonies donc annexent et détournent les puits, les sources d'eau, chassent les fermiers de leur zone quand elles sont en zone C, et ce qui fait que la plupart des Bédouins, entre autres, il y a plus de 15 000 Bédouins dans la vallée du Jourdain, eh bien sont la plupart du temps réduits à une pauvreté extrême, ne peuvent absolument plus ni construire de maisons, ni faire des pâturages dans les zones qui sont les leurs depuis des générations. Donc c'est essentiel de travailler pour soutenir en fait ce qu'on appelle la résistance populaire ou la résilience, hein, c'est-à-dire faire que les populations restent sur leurs terres. Et là, donc, nous avons entamé un projet avec le Mahan, donc ça veut dire ensemble. C'est on peut dire un organisme de développement pour des projets et entre autres sur la vallée du Jourdain, de réhabilitation de maisons. Et on a donc démarré, on démarre un projet avec le MAHAN sur la construction et la réhabilitation, non, la réhabilitation, pas la construction, je vais t'expliquer pourquoi, la réhabilitation de 45 logements pour 45 familles, donc. Pourquoi réhabilitation et pas construction? Parce que, comme ils sont en zone C, ils n'ont absolument pas le droit de construire de nouveaux logements. Et c'est un des gros problèmes, c'est-à-dire que les familles s'étendent et s'élargissent, mais ne peuvent pas construire de nouveaux logements parce que il faut qu'ils aient une autorisation de la puissance occupante qui est Israël, qui ne leur accorde absolument pas, bien sûr, de permis de construire. Donc la seule solution, c'est de réhabiliter et d'améliorer les constructions existantes. D'où l'idée, effectivement, de réhabiliter 45 logements dans un premier temps. Réhabiliter par pourquoi ? Parce que la plupart des maisons que nous avons pu visiter quand nous sommes allés en décembre en mission sont construites en terre et les toits sont en palme. Et dès qu'il y a, il y a d'énormes orages très très puissants dans la vallée du Jourdain au moment de la saison des pluies. Et donc, ça délite, les murs se délitent et les toits, bien sûr, fuient complètement. Et il peut faire aussi des variations de température énormes dans la vallée du Jourdain. Il peut faire très, très chaud et très, très froid. Et donc, les toits n'isolaient pas suffisamment. Donc là, il est question de leur permettre de réhabiliter et d'isoler les toits de manière à ce qu'ils puissent résister aux intempéries et qu'ils les isolent du froid et du chaud. Et puis construire en dur les murs, donc renforcer quoi, en fait, les murs de terre. Voilà, donc c'est un projet qui doit s'étaler sur 3 ans, que nous faisons en collaboration avec aussi l'association France-Palestine de Rhône-Alpes, avec des financements donc de la région Rhône-Alpes, et chez nous du Conseil Général et de certaines municipalités, dont la municipalité de Digne d'ailleurs. Et puis, bien sûr, la solidarité essentielle, ce sont les dons des gens qui sont qui nous soutiennent. Hein. Et donc, c'est pour ça que la proposition de Daniel est tout à fait bienvenue, à la fois financièrement, mais surtout aussi parce que c'est une occasion, à travers les livres qu'il vend, de parler aussi de ce projet et de la situation, de l'occupation et de la résistance des Palestiniens, qui, en ce moment, vous voyez, l'actualité est extrêmement douloureuse, hein, puisque Gaza, de nouveau, reçoit des missiles et est attaqué par Israël. Vous avez vu qu'il y a eu deux jeunes colons israéliens qui ont été, apparemment... Alors, on n'a aucune revendication, donc on ne sait même pas ce qu'il en est, mais qui auraient été kidnappés par on ne sait pas qui, en territoire, en zone C d'ailleurs, donc sous contrôle total israélien, mais que Netanyahou, le Premier ministre, qui est lié, je le rappelle, dans son gouvernement avec l'extrême droite israélienne, en profite pour faire une politique là, de répression terrible et de chasse à l'homme en Cisjordanie. Et puis, encore une fois, de s'attaquer au Hamas pour essayer de diviser, en fait, Hamas et l'autorité palestinienne au moment où ils arrivent à faire un gouvernement d'unité, comme par hasard. Ça tombe très bien, je trouve, d'une certaine façon. Et le troisième aspect, c'est qu'il y a une grève de la faim dont aucun média ne parle. Une grève de la faim des prisonniers palestiniens qui en sont à leur 50e jour de grève de la faim, où ils risquent la mort. Que Netanyahou, la seule réponse qu'il a trouvée, c'est de voter une loi pour les obliger à les nourrir de force. Et d'ailleurs, il y a eu un Palestinien il y a 2 ans qui est mort à cause de cette violence qui est faite quand on veut les nourrir de force, qui proteste contre la détention administrative, puisque vous savez que beaucoup de Palestiniens sont détenus sans jugement pendant des années en détention administrative. Donc la situation est extrêmement grave en Palestine et je pense que c'est très très important, toutes les actions de solidarité que nous pouvons mener. Et donc, toutes ces actions comme celle de Daniel, de soutenir un projet et d'en parler, c'est très important.
Monique Etienne, merci. On revient à Daniel Berthet, donc artisan romancier, et son livre « Porteur de rêves », parle donc de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on peut savoir comment est fait le livre? Et puis, on peut déjà le trouver, il est édité en nombre suffisant pour aider la Palestine.
On peut le trouver maintenant, et donc le mieux c'est de le commander sur mon site, parce qu'à ce moment-là il y aura 5 euros de reversés à l'association France-Palestine pour le projet qui vient d'être développé par Monique. Et on pourra le trouver aussi dans le commerce, mais dans ce cas-là la marge de distribution va aux commerçants, ce qui est bien normal. Mmh. Concernant le sujet lui-même, le livre commence en 1957, pendant la bataille d'Alger, et se termine en 2009. Donc c'est une période très longue, mais la période la plus intéressante, la plus étudiée, c'est la période de la guerre d'Algérie qui va jusqu'à l'indépendance en 1962. Après, il y a une suite, parce que j'avais besoin de faire une suite. Et j'avais besoin aussi de faire le lien un petit peu avec la Palestine. Je le fais dans le dernier chapitre, d'ailleurs. Ça me faisait plaisir de... Pour les personnages, j'ai voulu prendre des personnages qui soient symboliques des différentes communautés. Donc j'ai le premier personnage qui est mon personnage principal. C'est un enfant algérien abandonné qui a... la particularité d'être noir, donc qui se trouve rejeté par son village et qui a été abandonné par ses parents et qui se retrouve à la recherche de ses origines et qui, par chance, un jour rencontre un poète qui voit beaucoup plus loin que ce que nous pouvons voir et qui est capable de lire dans ses yeux et de lui donner un petit peu les chemins pour retrouver ses origines. Et à la recherche de ses origines, il va rencontrer, hélas, la torture, il va rencontrer la prison, il va rencontrer le maquis, et puis il va rencontrer aussi l'exil en France. Et puis là-dessus se greffent d'autres personnages. Je ne peux pas tout développer ici, il vaut mieux lire le livre.
Eh bien...
Par contre, je peux préciser quelque chose pour compléter ce que disait Monique.
Oui.
C'est que une de mes motivations aussi, ça a été un déclic en 2005, lorsque une loi française est passée le 23 février 2005, qui porte reconnaissance de la nation à la colonisation. Et dans cette loi, il y a quelque chose qui me semble totalement aberrant, c'est qu'il est dit exactement que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Le rôle positif de la colonisation, il se peut qu'il y ait un rôle positif, je ne le néglige pas, mais je crois que le rôle négatif sur les communautés des indigènes est beaucoup plus important. Et les dégâts faits par la colonisation sur les peuples colonisés, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et là-dessus, je trouve que la France a un comportement qui est quand même un peu méprisant par rapport aux peuples qui ont été colonisés. Mais c'est valable toujours aujourd'hui avec le peuple palestinien aussi. Donc ça a été une de mes motivations aussi pour essayer de dénoncer cette idée que le colonisateur apporte quelque chose de positif aux colonisés. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur
moi, je veux
ce
dire
thème?
Je suis d'autant plus heureuse que le début aussi, moi, de mon engagement,
ça
a été la guerre d'Algérie.
Oui, ça fait des années que vous êtes investi pour cette
et
cause.
Et donc, la guerre d'Algérie a été quand même une expérience traumatisante, je crois, pour notre génération, hein, parce qu'on est de la même génération.
Oui, exactement.
Et mes parents faisaient partie des rares militants qui étaient engagés à ce moment-là contre la guerre d'Algérie. Et il n'y en avait pas beaucoup. Ma mère a reçu des menaces de l'OAS pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens qu'on avait, entre autres, déplacé mon lit parce qu'on craignait les bombes à l'époque, hein, qui étaient posées par l'OAS. Et je pense qu'effectivement, c'est très dangereux actuellement, cette volonté de réhabiliter le colonialisme, c'est ce que j'appelle du révisionnisme historique, en fait. Une des premières, d'ailleurs, manifestations que nous avions faites de mémoire de résistance avait été, entre autres, consacrée à Henri Alleg, qui est mort cette année. Henri Alleg, qui a fait beaucoup pour, avec son livre La Question, qui a circulé pendant la guerre d'Algérie sous le manteau, pour dénoncer la torture dont il avait été lui-même victime. Donc, voilà. Et je me souviens aussi que j'étais jeune étudiante à l'époque à Bordeaux quand le film de Pontecorvo est sorti, La Bataille d'Alger, hein, puisque tu parlais de la Bataille d'Alger, et qu'à l'époque, le film était systématiquement arrêté parce qu'il y avait encore des alertes à la bombe lancées par l'OAS pour empêcher le film de passer. Donc ça montre... Et je pense, j'en parlais avec Leila Chaïd l'autre jour quand elle est venue aussi en France, en France puisqu'elle est en Belgique, pour la soirée à Manosque, elle disait qu'en fait, on parlait des élections et du traumatisme quand même de voir le Front National arriver en tête aux élections européennes, et elle disait qu'en fait... le passif de la guerre d'Algérie n'avait jamais été soldé en France et que c'était certainement aussi ce qui expliquait comment le racisme aujourd'hui, quand même, était souvent une motivation pour voter Front National.
Oui, là-dessus...
Le racisme anti-arabe, je précise.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que la guerre d'Algérie reste une cicatrice, ou plutôt une plaie mal cicatrisée encore en France. Et c'est dommage. Parce que si la France avait été capable de reconnaître ses erreurs, il me semble que les relations avec l'Algérie seraient nettement meilleures. Et ce sont deux peuples qui sont frères quand même, qui ont vécu ensemble. Il n'y a pas que des choses effectivement négatives dans la colonisation. Il y a eu des rapprochements entre le peuple pied-noir et puis le peuple algérien. Et c'est dommage que l'OAS ait joué la carte de la terre brûlée à la fin de la guerre d'Algérie, parce que je pense que la décolonisation telle que l'avait prévu De Gaulle aurait pu se passer de façon beaucoup plus agréable déjà pour le peuple pied-noir qui a dû partir en catastrophe de l'Algérie, et ça c'est vraiment dommage, et pour les pieds-noirs et pour les Algériens. Et je pense que la suite aurait été bien meilleure et on aurait des relations commerciales beaucoup plus intenses avec l'Algérie aujourd'hui. Donc un jour ou l'autre, il faudra que la France reconnaisse le tort qu'elle a fait au peuple algérien.
Et là, on peut faire le lien avec la Palestine, parce que je pense que le jour où Israël reconnaîtra la grande injustice qu'ils ont faite au peuple palestinien, en 1948, entre autres, au moment de ce qu'on appelle la Nakba, la grande catastrophe, quand plus de 800 000 Palestiniens ont dû quitter la Palestine et s'exiler, c'est une question de reconnaissance, je crois. Et si les Palestiniens, eux, ont reconnu Israël, Israël n'a toujours pas reconnu l'État palestinien, d'une part, et d'autre part, n'a absolument toujours pas reconnu cette grande injustice qui a été faite au peuple palestinien. Et tant qu'on ne reconnaît pas, en fait, la souffrance qui a été créée, on ne peut pas solder, en fait, et avancer vers un chemin de paix et de reconnaissance mutuelle.
Alors, je permets de rajouter, mais on va rentrer dans un débat, mais c'est pas peut-être le lieu et puis le moment, on le fera plus tard. Mais la grande différence entre l'Algérie et puis la Palestine, c'est que la France était seule contre l'Algérie. Aujourd'hui, Israël n'est pas seul contre les Palestiniens. Il y a une complicité internationale qui défend Israël. Et ça, c'est très grave pour le peuple palestinien, parce que s'il n'a pas de soutien sur le plan international, il aura du mal à se défaire de cette colonisation. Et c'est pour ça que sur le plan de la Palestine, le problème est encore beaucoup plus grave que le problème algérien.
Daniel Berthet, merci. Monique Etienne, merci. Est-ce que vous avez lu le livre, Monique Etienne?
Non.
Pas encore.
Il l'a porté là parce qu'il vient juste de sortir.
Il vient de sortir.
Justement, je vais me régaler.
Porteur de rêve, donc le mieux c'est de s'adresser donc à vous par l'intermédiaire du site www.danielberthet.com pour commander ce livre qui vaut combien?
Il vaut 15 euros.
Il vaut 15 euros, dont 5 euros sont reversés pour...
Pour l'association, dans le cadre du projet de développement des maisons, de restructuration des maisons. Consolidation des maisons, exactement.
Voilà, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de ce beau projet de solidarité et à bientôt.
Merci, merci. Odile.
Au revoir.
Thank you.